Chers amis, nous vous saluons pour cette émission de la série « Se trouver soi-même, des paroles pour la vie ». Une phrase à elle seule peut nous donner de l'espoir. Cette série est une lecture de différents chapitres d'un livre de Gabrielle, la prophétesse et messagère de Dieu à notre époque, qui s'intitule « La mort fait partie de notre vie, vivre et mourir pour continuer à vivre. Chacun est seul face à la mort ». Dans ce livre, Gabrielle apporte, à partir de sa conscience pleinement développée, des réponses à des questions essentielles qui effraient beaucoup de personnes. D'où vient la vie? Qu'est-ce que la mort? Qu'y a-t-il après la mort? Au fil de ses explications, Gabrielle nous amène à comprendre que celui qui apprend à comprendre sa vie n'a plus peur de la mort. Nous lisons aujourd'hui le chapitre suivant. Passer de la peur de la mort à une vie consciente, à la sécurité, à la sérénité et à la force intérieure, en apprenant à se connaître soi-même. À cette époque où l'éthique et la morale ressemblent à un château de cartes, une peur tenaillante rôde parmi les hommes, la menace de l'inéluctable qui se montre constamment à nous, la mort. Si nous voulons vaincre la peur qui nous tenaille, nous devons mener une réflexion sur Dieu ainsi que sur la vie et en fin de compte sur notre propre vie dans laquelle, que nous voulions l'admettre ou non, chaque action déclenche une réaction. D'un point de vue spirituel, cela signifie que dans tout ce que nous faisons et omettons de faire, nous sommes soumis à la loi de cause à effet, appelée également « loi des semailles et des récoltes ». Si nous nous mettons aujourd'hui à réfléchir à ce que sont la vie et la mort, au fait que nous allons mourir tôt ou tard, nous reconsidérerons alors notre manière de penser et de nous comporter. Nous nous observerons nous-mêmes toujours plus, tout particulièrement lorsque nous nous sentons intérieurement sous pression ou que nous sommes pris de panique parce que la peur de quelque chose d'insaisissable nous saisit à la gorge. Dans de tels moments, si nous cherchons à nous analyser en nous demandant « pourquoi ?», c'est-à-dire si nous menons une introspection, nous remarquerons qu'une force intérieure, qui s'écoule à travers notre âme et touche notre conscience, nous pousse à des prises de conscience sur nous-mêmes en nous communiquant des impulsions. Celui qui apprend à écouter, à ressentir ce que la voix de sa conscience lui conseille, elle qui s'exprime à partir de l'âme et est toujours l'expression du bien, et qui la prend en considération afin de faire dorénavant le bien, celui-là sent peu à peu la peur le quitter. Il se sent libre et porté par une force bienveillante qui lui procure sécurité et soutien à partir de l'intérieur et qui le rend heureux. C'est la source originelle, Dieu.
C'est seulement lorsque nous commençons à comprendre en quoi consiste l'existence humaine, lorsque nous saisissons pourquoi il nous est donné de vivre sur Terre, que la vie commence à avoir un sens pour nous. Nous sommes alors peu à peu en mesure de comprendre ce que signifie vivre et mourir pour continuer à vivre éternellement. Alors seulement nous prenons réellement conscience du contenu de mots tels que espoir, consolation, savoir, sagesse, joie, paix, santé, équilibre intérieur et beauté, et même à un âge avancé, nous resterons pleins de vitalité et de joie de vivre. En effet, celui qui vit consciemment vit véritablement. Celui qui, au cours de son incarnation, trouve qui il est à travers le contenu véritable de tout ce qu'il est, et fait, qui s'applique à respecter les critères éthiques donnés aux hommes par Dieu dans les 10 commandements et le sermon sur la montagne de Jésus, sera de moins en moins talonné et tourmenté par son comportement négatif. Il prend de plus en plus conscience qu'il vaut la peine de vivre ici-bas selon une morale et une éthique spirituelle. Celui qui accepte de se remettre en question, de s'analyser lui-même dans les situations de la vie quotidienne, afin d'apprendre à se connaître, est gagnant. Il a de moins en moins peur de ses fautes et de ses erreurs. Il les analyse avec clarté, en tire les leçons qui s'imposent pour continuer à avancer. C'est pourquoi il a la conscience tranquille, ce qui lui procure sécurité, sérénité et stabilité intérieure. Il fait l'expérience que l'essentiel n'est pas de jouir de l'existence à tout prix, au mépris du sort réservé à ses semblables et aux autres créatures, mais qu'une vraie qualité de la vie repose dans le fait de croître et de mûrir spirituellement. C'est cela qui permet de vivre en paix avec ses prochains, qui apporte clarté et perspicacité, dynamisme, joie de vivre et une vie épanouie. Nous ressentons alors de plus en plus le courant de la vie qui nous porte et nous guide. Le pressentiment que la vie ne s'arrête pas se transforme alors en certitude. Nous comprenons que la vie est et reste la vie, ici-bas et dans l'au-delà.
Nous poursuivons la lecture avec le prochain chapitre. Apprendre à comprendre sa vie libère de la peur de la mort. Celui qui refuse le fait qu'après la mort du corps physique, la vie se poursuit, mais dans un autre état de matière, un état plus subtil, n'est pas prêt à s'interroger sérieusement quant au sens de son existence ou de la vie, ni à prendre en main sa vie terrestre. Beaucoup de personnes repoussent l'idée de la mort pourtant inéluctable. Celle-ci n'en est pas moins présente à chacun de nos pas. Elle est près de nous à chaque instant, à chaque minute. Venir au monde sur la terre implique ce que l'homme appelle la mort, puisque celle-ci est le terme inéluctable de toute existence ici-bas. Mourir est donc tout aussi naturel et normal que naître. Cette question s'impose donc. Pourquoi tant de personnes ont-elles peur de la prétendue mort? Pourquoi tant d'effroi, de peur et de refoulement à l'égard de ce qui nous attend tout naturellement? La conception de la mort qu'ont beaucoup de gens, qui les emplit d'effroi, de panique, voire même d'un sentiment d'impuissance et de désespoir, est-elle peut-être fausse? Est-ce le produit de leur ignorance, de leur refus de savoir, la conséquence d'une relation à la vie qui est erronée? Quelle en est la raison? Aujourd'hui, alors que nous vivons sur Terre, nous pourrions regarder de plus près la mort et nous libérer de la peur que nous en avons. Il nous faut apprendre à comprendre notre vie pour ne plus avoir peur de cette image faussée, caricaturale de la mort, mais au contraire, intégrer cette dernière dans notre vie. La mort n'est plus un problème que pour celui dont les pensées sont orientées sur ce monde, mais pas pour celui qui a véritablement compris que la vie est une source d'énergie inépuisable et un courant d'énergie intarissable.
Le prochain chapitre du livre a pour titre, je cite, « L'existence terrestre est une étape de la vie que chacun peut vivre et mettre à profit de façon positive. » Nous parlons tellement de la vie. Nous voulons vivre. Et pourtant, la plupart des gens ne vivent pas vraiment. Ils se contentent de végéter, comme ivres, sans utiliser correctement le temps de vie terrestre qui leur est donné. Notre monde matérialiste, qui maintient beaucoup de personnes prisonnières du concept espace-temps, de l'image purement rationnelle et scientifique du monde ou encore de la doctrine de l'Église, les incite, pourrait-on dire, à profiter à l'extrême de la vie dans l'ici-bas. Cependant, ce n'est pas vivre. Pour celui qui se laisse aspirer par ce tourbillon matérialiste, le terme « au-delà » n'a pas de contenu tangible, pas de sens réel et par conséquent sans importance. Pour lui, la vie se résume à vivre au jour le jour. Il est pourtant nécessaire d'apprendre à comprendre ce qu'est l'au-delà, pour prendre conscience que la vie sur Terre est une étape, une phase de la vie, et pour l'apprécier de manière correcte, c'est-à-dire la vivre et la mettre à profit de façon positive.
Je poursuis avec le chapitre suivant. La vie, l'énergie universelle, s'écoule dans le cosmos tout entier. En tant qu'êtres humains, nous n'en voyons qu'une infime partie. La science nous enseigne que nous ne sommes pas en mesure de tout percevoir. Ainsi, par exemple, sans l'aide du microscope, il nous est impossible de savoir ce que contient une goutte d'eau. Dans l'air, aussi bien que dans l'eau, se trouve une multitude de bacilles capables, dans certaines conditions, de terrasser un corps humain. Pourtant, nous sommes incapables de les voir à l'œil nu. Bien qu'il s'agisse de formes de vie matérielle, nous ne sommes pas en mesure de les observer sans avoir recours à des instruments optiques. Nos yeux ne nous permettent pas de discerner les formes matérielles microscopiques. Ainsi, beaucoup de choses du monde matériel, faisant partie de l'espace et du temps, sont imperceptibles à l'œil humain. Même en perfectionnant considérablement nos instruments optiques, dans le but de voir plus, oui, de tout voir, et même si on multipliait par 1000, voire par 1 million leur capacité, nous constaterions qu'il ne nous est pas possible de tout voir. Notre cerveau, qui est en fait la centrale de commande dans l'être humain, ne réagit que dans le cadre espace-temps et a, de ce fait, lui aussi, une capacité limitée de perception. Il n'appréhende que ce qui appartient au domaine matériel et encore de façon limitée. Pour saisir ce qu'est l'au-delà, nous avons, pour ainsi dire, besoin d'une sorte de loupe, de microscope nous permettant de nous observer nous-mêmes. Les instruments nous permettant de mener à bien cette investigation pourraient être nos yeux, nos oreilles et notre cerveau. Celui qui en fait usage pour s'observer et s'analyser en viendra à se poser ces questions. Qui suis-je? Et d'où est-ce que je viens?
L'être humain est limité. Il ne peut ni faire briller le soleil, ni faire tomber la pluie. Il n'est pas davantage capable de créer la substance de la vie. Pour générer la vie, il a toujours recours à la substance vitale de base qui existe déjà. Mais d'où provient cette substance vitale de base? D'où provient cette énergie à laquelle nous donnons le nom de vie? Si elle était liée à la Terre, il n'y aurait alors pas de vie, pas d'énergie dans le cosmos. La vie n'est pas non plus liée à l'être humain. Elle est énergie cosmique dont font partie l'ensemble des planètes. Tout est vie, ce que nous voyons comme tout ce que nous ne voyons pas et qui existe pourtant. La vie est énergie, force motrice. Tous les processus vitaux résultent de l'action de cette énergie. Rien de ce qui existe dans l'infini tout entier n'est mort. Tout est énergie, et l'énergie est vie. À l'origine de cette énergie, il doit donc y avoir une source qui génère en permanence l'énergie, qui s'écoule et qui circule, qui amène la vie et qui lui donne forme. Il faut qu'il y ait un créateur en possession d'une énergie inépuisable. Cette énergie doit être dotée de certaines caractéristiques, d'un certain ordre, d'une sorte de structure intérieure, de lois déterminées. Il s'agit d'une énergie, d'une force universelle qui ordonne les choses et maintient l'ordre cosmique. Ainsi, la vie est énergie universelle. Elle s'écoule aussi bien dans l'au-delà que dans l'ici-bas. La vie, qui est l'esprit de l'infini, l'énergie universelle, ne se laisse pas circonscrire par notre pensée tridimensionnelle, par ce que nous nommons l'espace et le temps. Le courant de vie, que nous appelons notre souffle, est lui aussi énergie universelle. Respirer n'est pas uniquement absorber l'oxygène de l'air. Dans notre respiration se trouve l'esprit infini, qui insuffle la vie à l'ensemble des êtres vivants et à l'univers tout entier. Par notre respiration, nous sommes donc reliés à l'univers, au courant de vie universel.
Chers amis, Gabriel conclut ce chapitre du livre « La mort fait partie de notre vie, vivre et mourir pour continuer à vivre, chacun est seul face à la mort » par les mots suivants. Le courant de vie universel, appelé aussi énergie universelle, la vie, ne cesse jamais de s'écouler. La vie ne peut s'éteindre. Chaque jour, ou presque, nous apprenons le décès de quelqu'un. La mort en tant que telle est un phénomène inhérent à la matière, car tout ce qui est fait de matière, y compris le corps physique, est soumis à l'énergie de transformation. La mort, telle que nous la nommons, est quotidiennement parmi nous et autour de nous. Mourir pour continuer à vivre ensuite sous une autre forme fait partie de la vie terrestre. Si certaines des explications données vous incitent à réfléchir sur ce thème, n'oubliez pas que le courant de vie universel, l'énergie cosmique, la vie, ne cesse jamais de s'écouler. La vie ne peut s'éteindre. Nous nous réjouirions de vous retrouver pour la suite de cette série « Se trouver soi-même », « Parole pour la vie », une phrase à elle seule peut nous donner de l'espoir. Nous vous souhaitons le meilleur, beaucoup de force et une salutation en Dieu.